avait fallu qu'on approche de toi, s'il n'avait fallu les œuvres de la mort, s'il n'avait fallu pour être racheté, vivre sans reproche, je serais condamné. Mais dans ta justice, tu m'as tant aimé. Par le sacrifice de ton bien-aimé, mais dans ta justice, tu m'as tant aimé. Par le sacrifice de ton bien-aimé. Gloire à toi, Seigneur, la vie tu m'as donnée. Avec toi, ô Père, je suis réconcilié. Mon cœur est en paix, tu l'as régénéré. Et par ta parole, j'ai appris à t'aimer. Oui, en ta justice, tu m'as tant aimé. Par le sacrifice de ton bien-aimé. Dans ta justice, tu m'as tant aimé. Par le sacrifice de ton bien-aimé.
Eh bien, nous sommes mardi soir, 22 juillet, et nous poursuivons. Notre thème qui donc est Dieu, en sondant avec le secours de l'Esprit de Dieu ce merveilleux livre du Cantique, des Cantiques. Ce soir, nous vous avions demandé de lire au chapitre 3, les versets 6 à 11. Mais je relirai depuis le verset 1er. Sur mon lit, durant les nuits, j'ai cherché celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai maintenant, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et dans les places. Je chercherai celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde par la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon âme aime? À peine avais-je passé plus loin que j'ai trouvé celui qu'aime mon âme. Je l'ai saisi, je n'ai pas lâché, que je ne l'ai amené dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens et de toutes sortes de poudres des marchands? Voici son lit. Celui de Salomon. 60 hommes forts l'entourent, d'entre les hommes forts d'Israël. Tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un palanquin de bois du Liban. Il a fait ses colonnes d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre, son intérieur pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronnée au jour de ses fiançailles et au jour de la joie de son cœur. Ô Dieu, devant de tels textes, nous sentons notre incapacité à exposer ces richesses merveilleuses que chaque mot contient. Alors nous te demandons l'aide toute-puissante de ton esprit, afin que nous puissions découvrir les vérités qui nous seront utiles. Donne-nous de ne pas laisser courir notre imagination, mais de saisir ton plan dans notre vie et comment tu veux nous conduire d'étape en étape. Nous faisons faire de nouvelles expériences avec toi et nous amenant toujours plus près de ton cœur, afin que nous soyons véritablement cachés en toi, qu'il ne soit plus question de nous, que nous soyons vraiment dans cette fumée, sous la nuée, où l'on ne distingue plus que Jésus, le vrai fils de David, Salomon, le pacifique, ce roi de gloire qui viendra et qui régnera sur cette terre où il fut couronné d'épines et crucifié. Nous nous réjouissons de ce moment où nous verrons enfin la couronne de notre bien-aimé, où nous le verrons sur son trône merveilleux qui n'est plus une croix. Ô Seigneur, Seigneur Jésus, comment ne pas désirer ce moment de ta venue? Comment ne pas désirer ton triomphe? Comment ne pas soupirer après cette heure où les portails éternels s'ouvriront et où le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? Ô Dieu, apprends-nous à le connaître pour notre bonheur et pour que notre vie ait un sens et serve à ta gloire. Et quand à notre tour, si tu n'es pas venu, tu nous feras quitter ce désert, que nous puissions disparaître dans l'encens, dans le parfum. Apprends-nous à ce que notre mort soit toute à ta gloire, précieuse aux yeux du Seigneur, et la mort de ses bien-aimés. Si tu veux que nous quittions ce désert avant ton retour, oui, que nous puissions monter de ce désert en toi, qui nous dira, passons à l'autre, dans l'attente de la résurrection et de la gloire. Bénis-nous de ta bénédiction captive nos pensées. Donne-nous l'intelligence pour comprendre ce que ce soir tu veux nous enseigner. Amen. Nous avons déjà souligné que le livre du Cantique des Cantiques peut être lu comme donnant les expériences progressives des rachetés sur le chemin de la vie avec Dieu, et considéré sous cet aspect, nous constatons qu'il est en parfaite harmonie avec tous les autres livres de la Bible qui ont pour note dominante la mort et la résurrection. Et ce matin, nous avons vu que la bien-aimée n'avait pas répondu à deux appels de son bien-aimé, l'invitant à se lever et à le rejoindre dehors. Et cela me fait penser à cette parole du livre de Job où il est dit « Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde » au chapitre 33 du livre de Job. La bien-aimée a réalisé soudain qu'après avoir été dans les bras de son bien-aimé et inondée de son amour, elle a réalisé qu'elle était seule. Son bien-aimé était parti et l'appelait de l'extérieur. Il n'est pas dit que l'épouse se trouvait au milieu de choses inconvenantes ou mauvaises, mais ce qui nous est montré, c'est que, tout simplement, elle n'était pas avec lui. Pas nécessairement trouvée dans des choses mauvaises, non. Elle était là, où il l'avait quittée, mais elle n'était plus avec lui. Alors il l'appelle une fois, deux fois, à venir avec lui, jouir de tout ce qu'il voudrait maintenant lui donner. Je dirais que si je puis m'exprimer ainsi, la bien-aimée est encore dans une station d'hiver où Dieu a pourvu à ses besoins d'une façon merveilleuse. Au fond, quand elle était dans ses bras, sa main gauche sous sa tête et que sa droite l'embrassait, elle était dans une station d'hiver. C'était l'hiver. Mais même quand on est en hiver, le Seigneur prend soin de nous d'une façon merveilleuse. Mais voilà, on est tellement bien dans cette station d'hiver qu'on pense qu'on va y rester. Mais le Seigneur veut nous faire connaître une autre saison. Il veut nous donner d'autres soins que ceux qu'il nous donne en hiver. Et vous suivez ce qu'il voudrait d'elle. Maintenant, son bien-aimé voudrait qu'elle jouisse avec lui de quoi? De quelle saison? Parce qu'il est question de saison. Il y avait l'hiver, du printemps. Du printemps. Voilà. Il voudrait la faire avancer. Il voudrait qu'après avoir connu ses soins de l'hiver, elle connaisse les joies du printemps. Et vous avez remarqué qu'il y a une description en sept points. point. Dans le chapitre 2 que nous avons lu hier, il lui brosse le tableau qu'offre la nouvelle saison dont il voudrait vraiment qu'elle jouisse. Il dit, un, l'hiver est passé, que nous ne savons pas. La pluie a cessé et s'en est allée. 3, les fleurs paraissent sur la terre. 4, la saison des champs est arrivée. 5, la voix de la tourterelle s'entend dans le pays. 6, le figuier embaume ses figues d'hiver. Et 7, enfin, les vignes sont en fleurs. À vous de méditer sur ces pistes de réflexion que je vous laisse. Cette description merveilleuse que le Seigneur fait en lui ayant dit d'abord « Lève-toi, mon ami ». Et puis, il fait cette description. Puis ensuite, quand il a terminé, il lui dit une seconde fois, parce qu'elle n'a pas bougé, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Et voyez-vous, la voix du Seigneur nous appelle à venir avec lui dans une région spirituelle, loin du froid et des intempéries de l'hiver. C'est à une vie en abondance qu'il voudrait nous offrir. Dans l'hiver, il nous avait pourtant donné la vie, et combien on en a joui. Nous avons entendu sa parole, nous avons cru, nous avons eu le bonheur de nous savoir pardonner. Nous connaissons sa divine étreinte. Nous nous sommes même pâmés d'amour. Mais voilà, on était si bien là que l'on a oublié qu'il y avait une autre étape, qu'il y aurait une autre saison et que le Seigneur voudrait nous conduire de surprise en surprise, de merveille en merveille, de sorte que jamais nous ne nous habituerons. C'est quelque chose de merveilleux. Une vie de résurrection. C'est cela que Paul avait compris. Il y avait 10 années qu'il connaissait le Seigneur. Puis tout à coup, il dit, bien moi, voyez-vous, j'ai accepté de faire la perte de toutes choses. J'estime même toutes choses comme des ordures pour gagner Christ. Et pour le connaître, lui. On dit, mais Paul, est-ce que tu ne le connais pas? Oui, mais quand vous dites que vous connaissez Jésus, on ne le connaît que peu. On voudrait le connaître davantage. Et plus nous le connaîtrons, plus nous serons des bienheureux. Le Père trouve ses délices dans son Fils. Le Père, Dieu, l'être infini, il trouve ses délices dans la personne de son Fils. Et nous, nous pourrions douter que le Fils ne nous préserve pas des délices extraordinaires. Au fond, nous pourrions connaître, si nous le voulions, le bonheur de Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est qui? C'est Jésus, c'est son Fils, c'est son unique. Et il vous demande aussi d'entrer dans cette joie qu'il a. Le Dieu bienheureux fait ses délices dans la personne de son Fils bien-aimé. Et il voudrait que nous partagions cette joie. Alors Paul a compris, je veux le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection pour pouvoir parvenir à quoi? À la communion de ses souffrances. Pour être absolument identifié au Christ dans sa mort, afin de connaître la vie de résurrection. Mais il faut passer par la mort pour connaître la vie de résurrection. Il faut accepter de mourir. Si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, Paul a bien compris qu'il veut le connaître Et il veut cette puissance de sa résurrection parce qu'il sait très bien que être témoin du Seigneur, c'est un appel à souffrir. Et on ne peut pas vivre pour le Seigneur sans souffrir. Et pour qu'on puisse supporter ces souffrances, notre chair est complètement incapable de supporter ça, elle n'aime pas la souffrance. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Une puissance surnaturelle. Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est la même puissance qui est mise à votre disposition pour que vous puissiez tout souffrir, quelles que soient les épreuves au devant desquelles vous pourriez être appelé à marcher. Ils sont multitudes dans les pays du silence, dans ces pays où l'on persécute des hommes et des femmes, des enfants qui veulent garder leur foi au Seigneur Jésus. Et ces gens-là, croyez-vous qu'ils se lamentent? Au sein même de leur souffrance, ils louent le Seigneur et ils chantent. Et je trouve que quand on parle des églises du silence, ça me fait toujours un peu mal parce que ce ne sont pas des églises silencieuses. Elles sont silencieuses pour le monde. Nous, nous faisons beaucoup de bruit dans le monde religieux. Mais ces églises qui ne font pas de bruit, elles vivent dans une communion avec le Seigneur. C'est là qu'est la vie véritable. Et j'ai déjà raconté quelquefois le témoignage de ce missionnaire chinois qui a été en prison pendant 23 ans sous Mao Tse-tung. Et quand il a été libéré alors qu'il était presque aveugle et qu'on lui avait, pour ainsi dire, enlevé une partie de la langue aussi, enfin toutes sortes de tortures, quand un missionnaire américain a pu le voir et lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que ça a été pour vous, ces 23 ans en prison? Vous savez ce qu'il a répondu? Une lune de miel avec le Seigneur. Expliquez-moi ça. La puissance de sa résurrection pour pouvoir entrer dans la communion de ses souffrances, alors que nous, nous nous plaignons de toutes sortes de petites misères. On a parlé des petits renards, mais aussi tous ces murmures qu'on entend, toutes ces révoltes qui sont dans nos cœurs, toute cette insatisfaction, et il faut que des hommes comme ce Chinois nous remettent à notre place en disant avec un beau sourire, me prisons. Et une lune de miel avec le Seigneur. C'est beau. Regardez l'apôtre Paul. Il se plaignait de ses rhumatismes en prison. Pas vrai. Au fond de sa prison, il écrivait aux autres, soyez toujours joyeux. Encore une fois, je vous dis, réjouissez-vous. C'est merveilleux. Il n'était pas seul. Il était habité. Et quand on est habité par le vivant qui se révèle, même si on n'a pas de Bible, eh bien la parole de Dieu est dans nos cœurs. C'est pourquoi je vous dis, pendant que vous avez l'occasion, apprenez à connaître la Bible. Lisez-la, relisez-la. Vous devez vous dire, en tout cas, il se répète souvent celui-là. Mais pour quelle raison? Parce que je voudrais vous aider à ce qu'il reste quelque chose de la Bible dans vos cœurs, non pas de mes discours à moi. C'est rien, ça ne vaut rien. Oh, que je disparaisse dans cette fumée de l'Holocauste. Mais qu'il vous reste le parfum de la connaissance de Jésus. C'est de lui et de lui seul que vous avez besoin. Et quand nous partons, quand nous quittons le désert, qu'est-ce qui reste? Que ce qui a été de Jésus. Tout le reste s'efface. Que ce qui a été de Jésus. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur nous parle ce soir et crée en nous l'immense désir de le connaître davantage. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est la même qui est mise à votre disposition pour glorifier le Seigneur. Nous n'avons pas d'excuse si nous ne glorifions pas notre Dieu. Mais pour que cette puissance nous soit donnée, il faut nous donner entièrement au Seigneur. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Mais si le Seigneur est en plénitude en vous, si vous le laissez grandir en vous, eh bien, vous ferez l'expérience que cela est vrai. Donc, l'appel du bien-aimé à sa bien-aimée, c'était pour lui faire voir les résultats de son œuvre. Oui, l'hiver, c'est la saison de la mort. Jésus, lui aussi, a dû passer par la mort. Et les disciples ont été en hiver, si j'ose m'exprimer ainsi. À un moment donné, ça a été pour les disciples l'hiver le plus rigoureux, l'hiver qui les jetait dans la désolation. Je prends quelques exemples. Voyez les deux disciples d'Emmaüs. C'était l'hiver pour eux. Ils avaient quitté Jérusalem. Leur cœur était brisé, abattu, ils se parlaient entre eux. Leur visage était triste. Il n'y avait plus d'espoir. Jésus avait été crucifié. Celui qu'ils avaient espéré voir prendre le gouvernement, on l'avait vu, au lieu d'être sur un trône, cloué misérablement sur une croix entre deux malfaiteurs. Vous comprenez la déception? C'était l'hiver dans leur âme. Est-ce que c'est l'hiver dans ton âme encore aujourd'hui? Qui que nous soyons, est-ce que tu es dans la saison de l'hiver? Est-ce que c'est l'hiver pour toi? Encore l'hiver? Toujours l'hiver? Tu dis que tu es au Seigneur, mais au fond, c'est la saison froide. Les disciples marchaient, tournant le dos à Jérusalem. Et vous voyez, comme le Seigneur s'est approché d'eux, au fond, comme de la bien-aimée, mais il n'a rien forcé. Il s'est tenu derrière leur mur, hein, comme on l'a vu. Il se tient derrière le mur. Ils ont entendu sa voix, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et puis, il s'est tenu derrière le mur. On peut dire qu'il a regardé par les fenêtres. Il ne s'est pas montré ouvertement à eux. Il regardait à travers le treillis. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais pourtant, il ne les a pas laissés sans leur avoir donné l'impression que l'hiver était passé. Parce que quand soudainement, quand il a rompu le pain et qu'il a disparu, alors ils l'ont reconnu. Alors ils ont su que ce n'était plus l'hiver. Parce qu'est-ce qui brûlait dans leur cœur? Il y avait un feu qui s'était allumé. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous exposait les Écritures? Et il retourne à Jérusalem. L'hiver est passé. La saison des chants était venue. Fini les larmes, fini les pleurs. L'hiver était passé. Ils arrivaient à une nouvelle saison, celle de la résurrection. Prenons un autre exemple que vous avez vous-même découvert aussi, c'est Marie-Madeleine. Elle qui avait tant aimé celui qui l'avait délivré de sept démons, eh bien, elle est là dans le jardin de Joseph d'Arimathée. Vous pouvez lire cela dans Jean 20. Elle le cherche, c'est l'hiver dans son cœur. C'est l'hiver pour elle. Même mort, elle ne trouve plus son Seigneur. Elle est venue pour l'embaumer et elle ne le trouve pas. Son corps n'est plus là. C'est l'hiver. Et pourtant, elle entend une voix. Elle se retourne. Il est là. Derrière son mur, Il est là, qui la regarde à travers le treillis. Elle ne le reconnaît pas. Il lui dit, « Pourquoi pleures-tu ? » Oh, il veut la faire entrer dans le printemps de la résurrection. Sèche tes larmes, Marie. Je suis là. Rabboni. Et c'est la joie. Fini l'hiver. Maintenant, elle va recevoir un message et elle pourra aller où? Annoncer une bonne nouvelle à ses frères, qui sont les apôtres, comme si les femmes n'avaient pas un ministère. Va, dis à mes frères, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, vers mon Père, qui est aussi votre Père. Plus l'hiver. L'hiver est passé, la saison des champs est arrivée, les fleurs paraissent sur la terre. Voyez-vous, comprenons que le Seigneur nous appelle tous hors des conditions et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans le monde pour connaître spirituellement une saine de vie. Pourquoi est-ce que nous restons enfermés dans nos circonstances? Je sais que vous avez tous des circonstances particulières. Je sais que vous vous débattez peut-être dans toute espèce de difficulté. Mais le Seigneur vous appelle. C'est pas lui qui a construit ce mur. C'est vous qui vous êtes entouré du mur. Même si vous appelez notre mur parce que vous êtes sauvés. Mais le Seigneur ne vous a pas aidé à bâtir ce mur. Mais c'est vous qui avez fait ce mur parce que vous avez certaines déceptions peut-être. Vous êtes au Seigneur, mais vous avez le mur. Puis le Seigneur est derrière. Vous êtes encore dans l'hiver. Ne soyez pas captifs de vos circonstances. Le Seigneur est au-dessus des circonstances. Il vous appelle dehors. Oui, mais dehors, il fait froid. Non, mais je t'amène dans un autre climat. Voyez encore en Jean 10. Il est dit, c'est un verset qui m'a souvent frappé. Dans Jean 10, où vous avez justement cet entretien de Jésus, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, et dans ce même chapitre où il nous fera parler des brebis qui entendent sa voix, qui le suivent, qui ne suivront pas la voix d'un étranger. Le jour de la fête des dédicaces, il est dit, c'était l'hiver. C'était l'hiver à Jérusalem. Et vous savez, l'hiver est froid, j'ai vu la neige à Jérusalem. C'était l'hiver. Et c'est là que le Seigneur parle à ses brebis. Voyez-vous, c'est vrai, nous sommes disciplinés en hiver, mais le fruit de cette discipline est embaumé par la chaleur du printemps. Et il veut nous amener réellement au printemps. Connais-tu le printemps? Toi qui es ici, à Mahanaïm. Connais-tu cette chaleur du printemps? Alors, la bien-aimée a reconnu sa voix, mais vous le savez, elle n'a pas répondu. Pourquoi? Bien, il y avait les petits renards, les renards ravageurs, et ce n'est pas nécessairement des grands péchés, mais c'est ce qui est mondain, ce sont nos aises, nos habitudes religieuses, notre tiédeur, oui, la tiédeur de la Odyssée. On est riche, on s'est enrichi, on a eu toutes sortes de grâces, puis on tombe dans la tiédeur de la Odyssée. On n'est ni froid ni bouillant, on est tiède, et le Seigneur nous appelle. Et vous savez qu'elle est sur son lit, et elle se repose. C'est le chapitre 3 que nous avons commencé ce matin. sur son lit, sur mon lit. Et alors, son lit à elle, eh bien, il est devenu un lieu de paresse spirituelle. Et c'est ça qui est dangereux. C'est la paresse spirituelle. On s'est habitué, on a fait des expériences avec le Seigneur. Mais maintenant, voilà, on est bien sur notre lit. Je suis sauvé, j'attends le Seigneur. J'ai ma tête sur l'oreiller de la grâce, sauvé par la grâce, par la foi. Et maintenant, j'attends le Seigneur, bien sûr. Mais qu'il vienne, lui. Mais le Seigneur veut travailler avec nous, puis il voudrait nous amener plus loin, et il veut façonner notre âme. Laissez-vous faire. Nous en avons parlé l'année dernière, du lit. Le paresseux se retourne sur son lit, encore un peu de sommeil, etc. Ta pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénuement comme un homme armé. C'est tellement triste de voir qu'il y a tant de chrétiens qui sont si pauvres spirituellement. Et aussi tant d'hommes dits de Dieu qui n'ont pas de message, qui n'ont rien à apporter aux âmes. Que de la morale peut-être, mais qui n'ont pas le message qui vient du sanctuaire. On ne se tient pas devant Dieu pour entendre ce que Dieu veut que nous apportions aux âmes, parce qu'il n'y a que lui qui connaît les besoins des âmes. Non, on regarde le monde et on se dit, mais qu'est-ce que le monde désire? Et il faudrait que nous puissions apporter quelque chose qui répond aux désirs du monde et dans un langage que le monde puisse comprendre. Comme si, quand vous êtes sauvés, vous ne deviez pas apprendre un autre langage que celui de votre naissance naturelle. Et c'est ça qui est absolument faux. Vous devez comprendre que vous aurez un autre langage. Vous devez vous mettre à l'école de la parole. Et vous familiariser avec la parole de Dieu, les mots que le Seigneur a voulu employer pour tous les temps. sinon alors c'est vraiment le déclin, la dévaluation de toutes les valeurs spirituelles et la mondanisation de l'Église, de sorte que bientôt discothèques et chapelles seront à peu près au même niveau. Et le monde ne s'y trompe pas. Le monde a soif d'autre chose. Le monde a soif d'absolu. Et avec notre désir de nous conformer au monde, nous nous trouvons en opposition directe avec toute la parole de Dieu. Je sais très bien qu'un jour je serai fusillé. Ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas vous flatter. Mais je vous dis que quand vous voulez apprendre une langue, vous ne pouvez pas l'apprendre à votre manière. Vous devez vous soumettre à des règles. C'est vrai ou c'est faux? Alors, il y a des choses qui doivent changer. Et voyez-vous, faites attention. Hein. Ne pensez pas, parce que vous avez un don naturel, que le Seigneur va le sublimer et que vous pouvez apporter ça au Seigneur. Et puisque vous pouvez servir le Seigneur avec vos dons naturels, il faut le revêtement du Saint-Esprit. Il faut servir Dieu avec la puissance surnaturelle de l'Esprit. Et cela est à votre disposition, mais vous passez à côté. Ne vous conformez pas à ce siècle. Je sais très bien que c'est un message qui ne plaît pas, mais relisez le Cantique des Cantiques. Et vous verrez ce que le Seigneur veut vous enseigner par son esprit. C'est lui qui nous façonne. Nous sommes à son école pour apprendre aussi sa parole. On nous parle du patois de Canaan. Mais mes amis, ce patois de Canaan, vous ne l'avez pas connu, c'est pas vrai. Vous n'en avez pas souffert. Peut-être que nous en avons souffert, notre génération. Mais vous, ce n'est pas le patois de Canaan qui devait vous troubler. Qu'est-ce que vous connaissez du patois de Canaan? Vous ne le connaissez pas. Hein? Soyez au moins droit et droite et sincère. Alors, quel est le patois que nous parlons aujourd'hui? Quel est le patois des jeunes? C'est plutôt un langage vert. Hein? Alors faisons attention. Que le Seigneur nous sanctifie et qu'il nous donne une vision de sa sainteté. C'est un de ses caractères qui est perdu aujourd'hui. On ne connaît plus la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et on répète cela dans les églises. Saint, saint, saint. Vous connaissez le sanctus. Mais quelle est la sainteté que nous trouvons? Nous lisons souvent les séraphins qui se couvrent la face de leurs ailes et les pieds de deux autres ailes qui volent de leurs six ailes qu'ils ont pas. Eh bien, ils s'exhortent l'un l'autre en disant saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Si les séraphins, les êtres si purs qui vivent dans la présence de Dieu, s'exhortent à la sainteté, comment nous autres qui sommes sur la terre n'aurions-nous pas besoin de nous exhorter aussi à la sainteté de Dieu? Dieu ne s'habitue pas à ce dont nous nous sommes habitués. Et c'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Il y a peut-être beaucoup de bruit, beaucoup de rapports tonitruants. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a comme réalité profonde? Alors tout à coup, oui, tourne-toi, tourne-toi, reviens Seigneur. Elle est pourtant à lui, elle l'a dit, je suis à lui, il est à moi. Et bien qu'elle ne soit pas prête, elle voudrait le recevoir. Elle voudrait qu'il revienne. Alors ce matin, nous sommes arrivés à ces premiers versets du chapitre 3. Durant les nuits, elle cherche sur son lit celui que son âme aime? Et vous voyez, la réponse ne vient pas immédiatement. Ça a pu durer assez longtemps. Vous avez remarqué qu'il est dit durant, pas la nuit, durant les nuits. Pendant plusieurs nuits, peut-être, elle l'a cherché, mais en pensant qu'elle pouvait rester couchée. Mais tout à coup, elle comprend qu'elle doit se lever. Et ce soir, juste quand je disais, j'ai été frappé par le verset 2, « Je me lèverai maintenant. » Soulignez ce mot « maintenant ». Elle aurait dû se lever avant. Hein, c'est vrai. Vous voyez qu'un mot qui jette tout d'un coup une lumière extraordinaire. « je me lèverai maintenant. » Tout à coup, c'est arrivé à la centrale. Maintenant. Alors elle se lève, mais voilà, elle a oublié où se trouvait le Seigneur, où elle pourrait le trouver. Alors elle le cherche dans la ville, nous avons vu cela ce matin. C'est pas dans la ville qu'elle va le trouver. Elle rencontre même les gardes. C'est les gardes qui l'ont trouvé. Ils ont dû trouver qu'une femme seule, dans la nuit, en ville, c'est suspect. Puis elle leur demande, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Pauvre garde. En tout cas, eux, ils ont vu une femme éplorer une femme qui n'a pas un témoignage. Ça, ils l'ont vu. Il y a plusieurs sens au mot garde. Et vous pouvez voir tout un rayonnement, tout un faisceau de vérité. Mais les gardes ne vont pas vous répondre. Ils ne connaissent pas. Est-ce que les gardes qui gardaient le tombeau pouvaient dire où était le corps de Jésus? Pourtant, ils étaient là. Mais les gardes ne pouvaient pas répondre. Alors, elle ne l'a pas trouvé, même si les gardes l'ont trouvé. Sa question étant restée sans réponse. Elle passe plus loin. Et voyez-vous, c'est cela, méditer, il faut passer plus loin. Il faut se débarrasser de toutes ces moyens que nous voudrions trouver pour découvrir le Seigneur. Allez jusqu'à lui-même, ayez un tête-à-tête avec lui. Vous le trouverez. Si vraiment votre cœur est droit et que vous le voulez, cherchez et vous trouverez. Emparez-vous ce soir de cette vérité. Dans la foi et vivez dans l'espérance. Je ne dis pas comment ça se passera, mais lui vous réserve une surprise. Et c'est merveilleux quand on peut dire dans la foi à quelqu'un, si tu demandes, tu verras qu'il te répondra. Quand je partais là, il y a 40 ans, dans mon ministère auprès des malades tuberculeux, dont beaucoup mouraient, à les uns en Suisse, et que je disais à des athées, mais tu peux pas me prouver que Dieu n'existe pas. Puis ils me disaient, mais toi, tu peux pas me prouver qu'il existe. Non. Alors on disait match nul. Non, non. Mais, moi je l'ai rencontré. Tu ne l'as pas rencontré, mais moi je l'ai rencontré. Prends-moi pour un fou, un illuminé. Mais moi je l'ai rencontré. Pourquoi? Puisque tu es dans le doute. Puisque tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce que tu ne lui demanderais pas, ô Dieu, si tu existes? Révèle-toi à moi. Il dit oui, je ferai, si je partais. Mais après, il y avait des petits chiens qui hurlaient derrière moi. Il dit, mais t'es fou, tu lui as dit ça, puis ça ne va pas se réaliser. Alors je devais me cramponner à la parole, puis à la visite suivante, peut-être une semaine après, j'arrivais là, avec le cœur un peu battant, et puis, qu'est-ce que je vois? Un homme transformé qui me dit, il m'a répondu. Comment? Ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez que Dieu répond et il n'y avait pas besoin de moi, là, pour lui enfoncer là, toutes mes injections pour qu'il se convertisse. C'est pas nous qui faisons l'œuvre. C'est Dieu qui fait son œuvre. Et c'est cela que nous devons croire quand nous prions pour les âmes. Mais voilà, vous rencontrerez un autre qui vous dira... que vous retrouverez toujours avec sa longue figure, puis vous lui direz,
Est-ce que tu as demandé à Dieu s'il existait?
Non.
Ah, pourquoi?
Il avait peur qu'il lui réponde.
Alors on ne demande pas. Vous ne demandez pas, alors vous ne recevez pas. Parce que vous savez très bien que s'il vous répondait, votre vie devrait changer.
Alors on ne veut pas prier.
On ne veut pas au fond de son ventre. Nous sommes menteurs, menteurs, menteurs. Le fond du cœur de l'homme, c'est le mensonge. Il faut le reconnaître. Mais si je suis trois fois menteur, le Seigneur est un Dieu tellement de grâce et de miséricorde, si je le reconnais, il efface mon péché. Il l'efface totalement et même il ne s'en souvient plus. Et il me donne la délivrance. Mais bien aimé, croyez-le, c'est cela qui est vrai. Emparez-vous de ces certitudes. Il ne vous trompe pas. Passez plus loin, oui.
Et alors, vous deviendrez utile, au lieu là de faire votre petite méditation sur l'absence du Seigneur, je vois pas pourquoi il n'est pas là, eh bien, vous serez capable d'aller apporter le message à la maison de votre maître. Et comme nous l'avons vu ce matin, vous n'irez pas pour assassiner avec des versets bibliques vos parents, mais pour leur apporter vraiment le parfum de la connaissance de Jésus qui maintenant vous imprègne et vous vous souviendrez que vous ne devez pas brusquer. Ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Alors la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez vu dans les versets 6 à 11? Vous avez eu l'occasion de les lire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je ne vais pas vous empêcher de parler. Je ne voudrais pas que vous disiez cela ou que vous pensiez cela. Mais nous avons peu de temps. Demain, nous avons une journée chargée. Alors, qu'est-ce que nous apprenons au verset 6? Qui est celle-ci qui monte du désert? Comme des colonnes de fumée parfumées de myrrhe, d'encens et de toutes sortes de poudres de marsan. Qui est celle-ci?
C'est celle qui dormait.
C'est quand même la même. Mais vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Et il me semblait tout à l'heure que j'entendais un de mes bons amis que j'ai beaucoup aimé, qui était à Jérusalem, et qui me disait, quand il vient en Israël, avec un groupe, ne les monte pas tout de suite à Jérusalem, parce que s'ils viennent d'une grande ville, et que tu les montes maintenant à Jérusalem, ils ne comprendront rien. Amène-les au désert, pendant 2-3 jours, pour qu'ils sachent ce que c'est que la foi. Et puis qu'ils sortent de ces villes, qu'ils sortent de tout ce contexte de la ville, tu les plonges dans des airs, c'est la meilleure préparation spirituelle. Et c'était vrai. C'était vrai. Vous l'avez connu, c'est Jean Roger, hein, le père Jean Roger. Et qui était vraiment un ami de mon cœur. Pourtant, c'était un prêtre. Hein. Mais on a travaillé ensemble. On était comme ça. Alors, mes bien-aimés, amène-les au désert. Alors vous connaissez la valeur de l'eau. Vous ne voulez pas du Coca-Cola au désert. Vous avez une idée de l'eau. De l'eau. Avoir de l'eau. Alors mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que quand on se laisse façonner par le Seigneur, oui, il vient avec nous, dans la maison de notre mère, mais nous n'avons pas apporté une doctrine nouvelle dans la maison de notre mère. Nous avons apporté une personne, le Seigneur. Comme Pierre, il introduit vers sa belle-mère, qui était agitée par la fièvre, si lui va lui parler, la fièvre va monter. Alors, il dit au Seigneur que sa belle-mère est malade, puis c'est le Seigneur qui va et qui la touche et la fièvre tombe. Parce que c'est le Seigneur. Il sait s'y prendre, tandis que nous nous gaffons. Alors souvenons-nous de cela, laissons le Seigneur. faire. Parlons de nos parents d'abord au Seigneur. Et le Seigneur les enseignera. Alors le Seigneur ensuite, il veut nous former, alors il nous amène au désert. Et c'est là que je vous lis un verset que vous méditerez, qui a été pour moi une bénédiction de ma vie dès mon enfance. Voici, chapitre 2 d'Osée, verset 14. Voici, moi, je l'amènerai, je l'attirerai. Tire-moi, nous courons après toi. Il y a ces puissances du Seigneur. C'est lui qui nous attire. Osée 2, verset 14. C'est pourquoi moi, je l'attirerai, je l'amènerai au désert et je lui parlerai au cœur. Là où il n'y a rien, où vous n'êtes pas distrait, il peut parler à votre cœur. Et il est dit, de là, de ce stage au désert, je lui donnerai ses vignes, qui est le symbole de la fertilité, de la joie. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. La vallée d'Achor, c'est la vallée où Achan a été lapidé et qu'on a appelé la vallée du trouble. Eh bien, cette vallée du trouble dans laquelle vous êtes maintenant, eh bien, il vous la donnera pour une porte d'espérance. Il ne veut pas que vous restiez prisonnier de vos circonstances. Il veut vous conduire en un lieu pour vous montrer que lui veut vous donner une porte d'espérance. Que votre épreuve va déboucher sur une porte d'espérance, sur une merveilleuse délivrance, c'est lui qui vous le dit. Alors, on pourrait parler aussi de Jésus, qui lui-même, avant son ministère, est allé au désert. Et c'est après avoir vaincu toutes les tentations au désert, qu'il s'en vient pour apporter, avec la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile. Quand il remonte du désert, Jésus est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, cette bien-aimée qu'on avait vu coucher sur son lit à elle, vous la trouvez où? Vous la trouvez dans le lit de Salomon, dans le lit du roi. Et c'est plus elle qu'on voit, c'est plus elle que l'on regarde. Elle est comme dans la fumée. Qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée, mais parfumées de myrrhe et d'encens et de toutes sortes de poudres des marchands sur l'autel où l'on sacrifiait les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, on mettait aussi fumé le parfum, et une odeur agréable montait vers le Seigneur. Et bien maintenant, nous avons livré notre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il n'est pas question de nos péchés, mais il est question maintenant que nos corps, nous devons les offrir au Seigneur. Est-ce que vous avez offert votre corps au Seigneur? Fais de mon corps ce que tu voudras. Emploie mes mains, emploie mes yeux, emploie mes oreilles. Quand le Seigneur, quand Dieu a voulu se manifester au monde, il a eu besoin d'un corps. Et maintenant qu'il est dans la gloire, c'est par son corps dont nous sommes les membres qu'il va se manifester au monde. Alors, il a besoin non pas seulement de vos âmes, il a besoin de vos corps, de l'homme tout entier, pour son témoignage. De sorte que maintenant on est caché en lui, dans cette myrrhe, dans cet encens, et dans toutes ces poudres des marchands qu'on pourrait comparer à tous les fruits de l'esprit que le Seigneur nous donne. Et puis maintenant, c'est plus la bien-aimée que l'on regarde, c'est le lit de Salomon. C'est le lit du vrai Salomon, le lit du roi, le lit où il se repose, où il trouve son repos, le lieu de son repos. Et il est dit que ce lit est entouré de 60 hommes forts qui l'entourent, d'entre les hommes forts d'Israël, tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. C'est donc bien du temps où nous sommes, dans cette période aussi difficile. Le Seigneur est dans la gloire. Dans la gloire, il n'a pas besoin d'être entouré des hommes forts. Mais sur la terre, où il est présent, eh bien, c'est à nous, les croyants, d'entourer le Seigneur et de vivre pour lui et de combattre pour ses intérêts. Et c'est la seule chose que je lui demande pour le reste de ma vie, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, c'est que je puisse être trouvé dans ces combattants, dans ces hommes qui sont consacrés à maintenir les intérêts du Seigneur. Parce qu'il y a ces frayeurs de la nuit, on dévalue le nom de Jésus. On met le nom de Jésus à toutes les sauces et on croit que c'est ainsi qu'on va sauver les âmes. Il faut maintenant entrer dans le combat spirituel. Il faut que vous soyez des soldats, que vous soyez de ces vaillants qui savent ce que c'est que le combat contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes, comme notre sœur nous l'a souligné hier dans Éphésiens 6. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu et puis entourez ce lit où repose notre bien-aimé et que nous puissions devenir vraiment de ces gens exercés. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté. Et puis, ce que nous savons, c'est que cette épée, c'est quoi? La parole de Dieu. Revenez, revenez à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu. Et vous pourriez parler des frayeurs de la nuit que l'on trouve dans le psaume 91. Le roi Salomon s'est fait un palanquin. Qu'est-ce que c'est qu'un palanquin? En Orient, c'est une litière porté par des hommes. Et au fond, le Seigneur vous appelle à porter en quelque sorte le trône du Seigneur avant qu'il ne vienne. Au fond, c'est nous qui portons le beau nom du Seigneur sur nos épaules. Et alors, est-ce que nous bronchons? Souvenons-nous que nous sommes les porteurs du Christ, du roi des rois. Et ce palanquin, on pourrait en parler longuement, il est fait du bois du Liban. Et qui est-ce qui s'est fait ce palanquin? C'est Salomon lui-même. C'est pas nous qui faisons le palanquin pour porter le Seigneur. C'est le Seigneur qui, dans sa vie, s'est fait ce palanquin et nous avons maintenant, nous, à porter son nom. Mais ce palanquin, c'est pas un chariot qui roule, hein. C'est, on le porte sur nos épaules comme la sedia gestatoria de Rome, mais c'est un autre que celui de Rome qui est sur ce trône de gloire. Il est fait de bois imputrescible du Liban, le cèdre, et aussi le cyprès, les bois imputrescibles et odoriférants. Il a fait aussi ses colonnes, des colonnes d'argent. Les colonnes, c'est le symbole de la force. Et l'argent, c'est le symbole aussi de la pureté et de la rédemption. Nous avons été rachetés. Et puis, son dossier est d'or. L'or, c'est le symbole de la justice divine. Son siège est de pourpre. La pourpre, c'est le symbole de quoi? De la royauté. Nous portons, pas n'importe qui, nous portons le roi. Nous l'avons sur nos cœurs. Mais maintenant, nous avons un témoignage à rendre et dans un tel monde, nous le portons. Et à son intérieur, il est pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Oh, je pensais à ces femmes qui avaient suivi le Seigneur. Elles avaient vraiment paver son trône avec amour. C'était pavé d'amour. Ces âmes qui aiment le Seigneur, c'est le pavement du trône du Seigneur. Alors sortez, filles de Sion, et voyez qui ?
Moi ? Non, le roi.
Voyez le roi. Ce que nous devons montrer, ce n'est pas à nous montrer, nous. Notre vie, elle est cachée dans le Christ, en Dieu. Ce qui doit être montré, c'est le Seigneur. Et quand lui, qui est notre vie, sera manifesté, il nous manifestera avec lui en gloire. Mais comme chrétiens, nous nous sommes trop montrés. Le monde nous a trop vus et il ne croit plus à ce que nous prêchons. Parce que nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Nous sommes à côté du sujet. Alors, que le Seigneur nous réveille et que nous connaissions vraiment cette visitation de l'Esprit, et que toutes les nations, les filles de Sion, et qui reçoivent la bénédiction qui vient de Sion, que toutes les nations puissent voir le roi avec la couronne qu'il portera dans la gloire éternelle. Et cette couronne de sa mère, qui ici n'est pas Bathsheba, parce que c'est du roi des rois, du plus grand que Salomon, qu'il est question, et dont elle a été couronnée, sa mère, c'est bien Israël. Le Seigneur, quant à la chair, vient d'Israël. Comme il l'a dit, le salut vient des Juifs. Nous ne renions pas cela, et nous considérons Israël, n'est-ce pas, non pas seulement Marie, mais Israël, et qui est la mère du Seigneur. C'est d'Israël que le Messie est sorti. Et puis, les noces ne sont pas encore arrivées, c'est les fiançailles. Hein? C'est beau de retrouver le mot fiançailles. Je vous ai fiancé à Christ. Quand est-ce que les noces auront lieu? Quand il sera venu, nous entrerons. Mais le jour de ses fiançailles, c'était quel jour? Le jour de la joie de son cœur. Et qu'est-ce que c'était le jour de la joie de son cœur? Dites-moi un peu. Le jour de la joie de son cœur. Oui, quand vous vous êtes converti, il y a eu de la joie dans le ciel. Pour un pécheur qui se repent, il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais, mes amis, lisez Hébreux chapitre. Aidez-moi. Ah, oh, j'ai fini. Chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie était devant lui alors qu'il avait la croix. Et à cause de cette joie, de savoir que par son sacrifice, des âmes seraient sauvées, et qu'il pourrait les introduire auprès de son Père en lui disant « Me voici, moi, et les enfants qu'il m'a donnés. » Mais pour cela, il fallait qu'il meure. Eh bien, ça a été pour lui sa joie. C'était la joie qu'il avait, même dans ces moments si effroyables, de Gethsémané, du rocher de l'agonie, où vous voyez notre Sauveur, suant du sang, et disant, Père, s'il était possible, cette coupe passe loin de moi. Et il a accepté sa volonté, et dans l'acceptation de sa volonté, il a trouvé la joie de pouvoir tout souffrir pour nous sauver. Que le Seigneur bénisse sa parole, et qu'il vous entretienne lui-même, et qu'il illumine tout ce que je n'ai pas su vous dire pour mieux vous éclairer. Dieu notre Père,
Nous voulons manger ta parole. Nous voulons faire comme Marie. La repasser dans nos cœurs, même si nous ne comprenons pas tout. Et qui pourrait dire qu'il comprend tout? Marie, quand toi tu parlais, ne comprenait pas ce que tu voulais dire. Mais un jour, elle a compris. Elle a gardé dans son cœur toutes ces paroles. Celle de Siméon, qui lui disait qu'une épée transpercerait son âme. Et un jour, elle a su ce que c'était que cette épée, devant la croix. Oh, cette mère, qui avait consenti à te donner son corps pour que soit formé en elle le Saint des Saints. Comment ne pas nous souvenir de l'exemple qu'elle nous a donné? Comment ne pas nous inspirer de cette nuée de témoins qui nous entourent et qui t'ont glorifié dans le premier siècle, qui t'ont glorifié avant ta venue, mais parce qu'ils croyaient à cette venue, que ce soit Enoch, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, Isaac et même Jacob. Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, toi qui n'as pas changé, visite-nous dans ces nuits, visite-nous dans ces journées. Demain d'anime 1986. Quand de Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et que nous puissions savoir qui est Dieu. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, par la puissance du Saint.